Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'apérophonie. Il est 18h et vous écoutez Radio Campus Grenoble 90.8. Aujourd'hui au programme, j'accueille quelques membres, parce que s'il y avait tout le monde, ça ferait beaucoup dans le studio et on ne peut pas avec le Covid. Donc j'accueille trois membres du collectif Think What Matters, ce qui veut dire, attention, dites-moi,
ce qui compte. Si on fait une traduction directe.
Voilà, j'avais très
mais
envie
mais c'est plus stylé en anglais.
Voilà.
Désolée.
Et voilà, on renie toujours le français dans le pour
c'est vrai, que c'est ça dramatique,
soit stylé.
Hein.
Ouais, c'est dramatique. Mais bon, là n'est pas le sujet. Bonjour à vous déjà.
Mais bonjour.
Bonjour.
Merci pour l'invitation.
Et ben de rien, ça fait très plaisir. J'espère que vous allez bien.
Ça va bien. Merci.
Très content d'être là.
C'est votre première fois à la radio ou pas?
Moi absolument.
Moi aussi.
À me faire interviewer, oui.
Ok. Ok, très bien. Ben, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Vous êtes entre deux bonnes mains. Bref, je disais donc qu'on était en compagnie de trois membres du collectif Think What Matters.
Un collectif, du coup, qui se qualifie de pluriel et qui aborde la thématique de la transition écologique. Est-ce que, du coup, vous pourriez nous en dire un peu plus
Exactement. Ben, je ne sais pas si je peux... Si... Allez, je commence.
Vas-y, vas-y.
Donc oui, on a monté ce collectif-là qui a maintenant un an, donc, qui est de base grenoblois. Et en fait, ça a mûri un petit peu dans la tête de certains ingénieurs et d'étudiants de Sciences Po. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on voulait aborder ces sujets-là parce qu'on n'avait pas assez de matière, nous, dans nos formations, pour avoir les outils pour pouvoir participer à la transition écologique arriver en entreprise. Et en fait, on voulait participer à des collectifs, rentrer dans des collectifs. Puis on s'est rendu compte que les collectifs étaient hyper focalisés suivant les formations. Il y a des collectifs ingénieurs, des collectifs de Sciences Po, des collectifs en droit, en art, etc. etc. Mais personne ne se parle. Et pourtant, la transition, c'est maintenant, mais c'est sur tous ensemble dans la même direction. Et donc, du coup, on s'est dit, on va faire un collectif un peu différent et on va construire Think What Matters qui veut réunir toutes les formations en même temps pour travailler ensemble sur les sujets.
Et donc, du coup, là, vous êtes combien dans le collectif à peu près en ce moment maintenant?
Donc aujourd'hui, on est maintenant une vingtaine, on est 19, 20. Et du coup, on a des étudiants ingénieurs de Grenoble INP, de l'INSA, de Polytech. On a des étudiants de Sciences Po, avec les sciences politiques. On a des étudiants en droit international, des étudiants en psychologie du comportement. Donc bref, ça commence à vraiment remplir, à grandir plutôt. Et c'est du coup ultra enrichissant quand on travaille sur les sujets.
Et vous êtes toutes et tous de Grenoble ou vous avez des étudiants et des étudiantes d'autres villes aussi?
Non, on n'est pas tous de Grenoble. Okay. À l'origine, je crois que c'est parti quand même de Grenoble. Et au fur et à mesure, en fait, il y a des gens un peu de partout qui sont venus s'ajouter, surtout dans des écoles d'ingénieurs un peu partout en France.
J'étais à Lyon, par exemple. Après, je viens de Grenoble, mais je suis à Lyon. Et maintenant, je suis à Paris, en plus. Donc,
Ok, mais du coup, ça, c'est intéressant parce que vous êtes à la fois pluriel dans vos disciplines, mais aussi dans vos villes. Et du coup, vous avez des initiatives, j'imagine, qui naissent dans plusieurs villes différentes en France. Vous pouvez
Exactement.
Toucher plusieurs territoires à la fois, quoi.
Exactement, c'est le cas. On a une étudiante de l'INSA Toulouse qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, mais aussi de l'université de Poitiers. Donc c'est vraiment ultra intéressant parce que chacun apporte du coup ses compétences, mais aussi en lien avec du coup, sa territorialité. Je ne sais pas si ce mot existe, en fait.
Si, ça se dit.
Mais du coup, voilà, ouais, non, c'est vraiment hyper enrichissant. Puis on rentre en profondeur dans les sujets quand on les aborde, quoi.
Et ce qui est hyper pratique aussi avec ce fait qu'il y ait des gens un peu de partout, c'est que même nous, on est en études, mais on est quand même très mobiles. Enfin, on a des stages, on a des études qui se finissent, on ne va peut-être pas forcément rester sur Grenoble. Du coup, ça nous permet quand même de, partout où on va, un peu importer le concept et d'essayer de rallier des gens avec nous aussi encore.
Ok. Pour recruter, d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure.
Exactement.
Pour recruter en ce moment.
Exactement, ça va être le fil rouge de cette intervention.
Rejoignez-nous, on est gentils.
Et du coup, alors, Think What Matters, on vous a présenté vous un petit peu et on a dit que vous étiez un collectif pluriel, mais vous parlez de transition écologique. Comment c'est né et pourquoi c'est né, comment ça a germé dans votre esprit? Tu l'as déjà un petit peu expliqué tout à l'heure. Mais...
Le grand objectif, vraiment, il y en a plusieurs, hein, mais le grand objectif du collectif, c'est déjà se former pour avoir toutes les clés et pour avoir un petit peu un contexte sociétal avant d'arriver dans le monde du travail, pour être vraiment acteur de la transition. Parce qu'on ne peut pas être acteur si on ne comprend pas ce qui se passe. Enfin, nous, on est quand même assez convaincus. Donc, c'est déjà se former. Après, c'est vulgariser pour ramener des gens dans la cause. Et c'est vraiment inclure, montrer que tout le monde est légitime pour bosser dans la transition écologique et que ce n'est pas quelques ingénieurs simplement. Quoi. C'est toutes les formations, c'est tous les secteurs de professionnels, on va dire, qui doivent du coup faire leur part. Et c'est en plus hyper enrichissant comme mouvement. Donc voilà comment on fonctionne. Et puis du coup, comment on fait pour vulgariser, pour inclure des gens? On fait déjà des conférences. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéressait. Mais on fait des conférences qui sont très scientifiques. Donc on va aborder tout un tas de domaines. Mais à chaque fois, que ce soit chiffré, que ce soit sourcé, on lit les grands rapports, on se farcit le GIEC.
Ça reste compréhensible surtout. Exactement. C'est ça qui est important. Il faut que ça reste accessible et que ce ne soit pas barbant. Aussi.
Exactement. Mais du coup, on va travailler. Du coup, on a fait des conférences sur le climat, qui sont pour remettre tout le monde à niveau sur ces questions-là. Donc, en école d'ingénieur, on a fait ça principalement. On a fait des conférences aussi sur la société linéaire et la différence avec la société circulaire. Montrer un petit peu tout ça. Puis, on a fait des conférences après aussi sur le rôle de l'ingénieur, si on s'est focalisé là-dessus, mais aussi sur l'électronique. On a fait un grand domaine, on s'est focalisé là-dessus. Après, on a fait une conférence sur la psychologie du mouvement, pourquoi ça bloque. Pourquoi on est de plus en plus conscient des enjeux de transition écologique et pourquoi on n'agit pas plus. Donc on a fait des conférences là-dessus avec des psychologues, des sociologues qui nous ont aidés à construire tout ça. Et à chaque fois, les retours sont super parce que c'est quand même très concret, c'est très facile à comprendre, on image aussi tout ça. Et on est dans un mouvement aussi très optimiste. On montre ce qui ne va pas, mais on montre surtout qu'est-ce qu'il faudrait faire, des pistes de réflexion pour avancer.
Oui, il n'y a pas de culpabilisation. Et puis aussi, je pense que le fait que ce soit des jeunes qui parlent à des jeunes, ça aide beaucoup plus que si c'est un professeur ou quelqu'un d'un peu plus lointain qui vient faire un cours et déblatérer des chiffres. On essaie vraiment de s'adapter aux gens qui nous écoutent et de leur transmettre ce qui nous a marqué, nous a touché pour faire réagir et éduquer.
Le principe, c'est d'engager les gens aussi avec nous, en fait. C'est vraiment pas se braquer, c'est regarder, on peut tous faire quelque chose, on peut tous comprendre quelque chose et apprendre des choses. Et comme ça, les gens viennent
avec nous. Tout le monde a la capacité d'agir dans la cause. Parce qu'en fait, par exemple, on voit beaucoup de personnes qui... Enfin, par exemple, je ne sais pas, j'aurais utilisé l'expression « voilage de face ». C'est quand même un état d'esprit qui est très présent dans la lutte autour du climat, de l'environnement, ben dans toutes ces questions-là. Comme ça fait peur, et ben on fait les autruches, en fait. Est-ce que ça, c'est un aspect... Enfin, vous le retrouvez souvent dans les personnes avec qui vous interagissez dans l'assaut. Vous luttez aussi par rapport à ça?
Exactement. C'est... En fait, on a été assez surpris parce que quand on a parlé de notre collectif un peu autour de nous, bon, c'est pas à chaque fois tout ça, hein. Il y a beaucoup d'engouement, mais on a retrouvé aussi beaucoup de fatalisme, en fait, chez les étudiants. Dans l'idée que David, tu vas pas pouvoir changer l'économie mondiale, tu vas pas pouvoir changer notre société dans ses grandes lignes, donc c'est bien beau ce que tu fais, mais perds ton temps. Et donc nous, on se bat complètement là-dessus parce que on a tous un rôle à jouer, et plein de rapports qui nous le montrent, on a tous un rôle à jouer, et en voulant consommer différemment, en voulant voir la société différemment, et bah, du coup on vient complètement faire complètement diriger d'une nouvelle manière la société.
Parce que c'est sûr qu'à toi tout seul, tu pourras pas changer les choses, David, mais avec 50, 100, 10 000 David, voilà.
Exactement.
On pourrait faire quelque chose. Donc, le but, c'est de transformer tous les gens en David, en fait.
Oh, Nathan aussi. Nathan aussi.
Non, et puis surtout, c'est pas qu'une sensibilisation sur les petits gestes, des choses qu'on nous répète tous les jours, de consommer mieux, de couper l'eau, d'éteindre l'électricité, tout ça. C'est vraiment, en fait, impliquer les gens dans leur futur professionnel. Enfin, parce que la plupart des gens à qui on s'adresse, c'est des étudiants et qui veulent agir pour la transition, qui veulent avoir un métier qui a du sens pour eux et tout, mais qui savent pas comment faire pour transposer ces valeurs-là dans le monde professionnel, le monde de l'entreprise, le monde de ce qui nous attend après. Et du coup, en fait, on essaye vraiment de réfléchir à ça et de comment garder en fait cette volonté d'agir plus tard quand on aura un travail et qu'on devra gagner de l'argent.
Et surtout, on se rend compte que c'est très compliqué. Moi, je viens de commencer un stage, par exemple. Donc c'est un stage dans la transition écologique. Et on voit très vite que c'est l'argent qui compte avant les économies de CO2 ou d'énergie. Et c'est vraiment un impact qui... Il faut être conscient de ça. Et moi, j'ai la chance de travailler dans quelque chose qui soit un peu plus écologique, mais il y a plein d'autres entreprises où tu arrives avec de belles intentions, et en fait, tu te fais un peu broyer dans le sens où il faut que tu te moules dans le système si tu veux rester là. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, le but, c'est de privilégier aussi des entreprises qui sont cohérentes avec nos ambitions.
Mais alors, Du coup, moi, pour rebondir là-dessus, parce que c'est super intéressant l'aspect des blocages à la transition, pour montrer un petit peu comment on fonctionne, nous, on est parti de ce grand constat. Bon, bah, il y a des blocages, on est de plus en plus nombreux et c'est difficile, il n'y a pas le déclic qui pousse à l'action. Et en fait, du coup, on s'est dit, bah, bon, ok, on va faire une conférence là-dessus. Donc, on a fait une grande conférence avec des étudiants, du coup, en psychologie du comportement.
Oui, bah, là où votre collectif est pluriel, ça joue pour
mais
vous
oui,
de pouvoir.
C'est incroyable.
En fait, quand tu dis, vous avez les grands rapports, en fait, c'est qui sont. Enfin, moi, personnellement, je lis jamais ces choses-là. Je vois trois mots dans. Il y a trois lignes, il y a quatre, cinq mots que je comprends pas, j'abandonne. Enfin, je me dis, parle-moi avec mes mots, enfin, ma langue. Enfin, vraiment, et puis d'un coup, ça paraît toujours hyper flippant plus. Et donc, vous.
Donc, c'est pas l'objectif.
Bah ouais. Et vous, mais oui, mais du coup, vous, finalement, si vous venez vulgariser ça.
Exactement.
Et que du coup, c'est chacun avec sa spécialité, donc un étudiant en psychologie, ou un étudiant ingénieur, un étudiant, je sais pas moi...
En droit. Qui nous ont aidés aussi.
Ouais, bah carrément. Et bah du coup, ça permet de vulgariser, mais vraiment, et pas juste une partie du rapport et de...
Exactement.
Et de chacun y met sa patte. Et puis même pour vous, finalement, ça doit être quand même assez enrichissant.
C'est super enrichissant.
Ouais. C'est tellement enrichissant. À chaque fois, on fait beaucoup d'articles sur la page Facebook pour essayer donc de transmettre des informations. Et nous, en écrivant l'article, on apprend des choses toujours, on se rend compte que c'est toujours plus complexe, les problèmes. Ça m'est arrivé, quand ça a écrit un article, et au final, de l'arrêter parce que j'avais pas compris toute l'ampleur de ce qu'il y avait derrière, et j'avais la volonté de dire les choses les plus pertinentes et justes possibles, et donc, voilà, j'ai dû prendre plus de temps pour l'écrire.
Ça, okay. Du coup, vous les écrivez tout seul, les articles, ou là, j'ai l'impression que du coup, c'était tout seul, mais...
Moi, je l'ai écrit tout seul, mais en fait, on a tout un pôle qui s'occupe de l'article, enfin... qui après vient nous relire, vient nous corriger, on va vérifier les sources par exemple, vérifier aussi les tournures de phrases, que ce soit compréhensible pour le plus grand public, on va dire. Si moi je suis ingénieur et que j'écris mon article avec tout un tas de termes scientifiques, les gens ne comprennent rien comme tu dis. Donc voilà, l'intérêt c'est de rendre les choses le plus rigoureuses et le plus compréhensibles, et plus aussi un peu fun si on peut mettre de l'humour, si on peut faire des choses qui soient intéressantes pour tout le monde. Comme ça on s'amuse et les gens s'amusent à nous lire aussi.
Ouais, exactement, je pense que la volonté derrière les articles c'est de vraiment... donner des informations qui sont fiables, qui sont sourcées, qui sont véridiques, mais dans un espèce de packaging, enfin je sais pas comment dire, mais une formulation qui est accessible, simple, et qui donne envie d'être lue. Parce qu'on veut aller, on veut pas forcer les gens à nous lire, au contraire, on veut un peu les séduire. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, on publie sur Facebook.
Ouais, c'est ce que j'allais
avec,
dire.
Avec, oui, justement, une écriture qui est spécifique au réseau social. Et donc, qu'on peut lire assez facilement entre deux photos de chat sans se prendre la tête. Et donc, c'est vraiment essayer d'amener ces questions-là chez les gens et leur donner envie de les lire. Tout en apportant un peu une expertise avec des gros guillemets parce qu'on est expert en rien, mais qui est vraiment très, très fondée et qui est formulée par différentes personnes de différents domaines pour que ce soit vraiment très pluridisciplinaire.
Et puis finalement, tu dis vous êtes expert en rien, donc il y a cette question de la légitimité aussi, j'imagine, quand tu fais de la vulgarisation qui doit pas mal vous tarauder l'esprit. Mais ce que tu m'expliquais hier, David, en discutant, c'est que vous faites, Nathan, tu parlais de la relecture qui est quand même vachement présente quand vous travaillez, et vous faites lire vos projets, en tout cas de conférences ou d'articles, à des professionnels.
Ça, c'est vraiment super important pour nous parce que la transition écologique, c'est pas l'opinion de chacun, quoi. Il y a quand même des faits derrière, il y a quand même du factuel qui fait que nous, on se base à chaque fois là-dessus, sur des faits, pour après, du coup, déjà vulgariser les faits. Et puis après, nous, on vient réfléchir derrière, on propose des pistes de réflexion. Il y a vraiment deux temps à chaque fois quand on monte des conférences, par exemple, ou même des articles, c'est qu'à chaque fois, c'est très sourcé, quoi. C'est le GIEC, c'est l'ONU, c'est les grandes organisations comme ça, internationales, mais c'est aussi l'ADEME, qui est plus français, mais qui sont à chaque fois, qui ont une expertise derrière très, très scientifique. Donc ça nous intéresse beaucoup. Et du coup, par exemple, sur l'exemple des blocages à la transition, c'est très psychologique et sociologique. On a fait du coup une vulgarisation, donc on a travaillé avec des étudiants qui travaillent en psychologie. Donc on a travaillé sur les blocages à la transition, donc les biais cognitifs et tout ça. Donc on a vulgarisé, et puis après, du coup, on a développé des nouvelles pistes de réflexion sur comment voir la nature différemment, comment voir le futur différemment, comment rêver comment rêver d'une autre manière de vivre. Donc ça, c'est très très simple, et donc il y a l'art, la culture qui joue derrière. Donc voilà, on a fait toute notre conférence, et à la fin, on l'a fait valider par un sociologue coordinateur du GIEC. Et donc à partir du moment où on a eu sa validation, on s'est dit « Ok, on va pouvoir la proposer au grand public ». Et donc on a participé au festival Game Over. Et donc, on a fait notre conférence, il y a eu plein de retours super, super positifs, donc on est très contents. Mais voilà un petit peu comment on fonctionne dans le collectif.
Et dans ce côté pluriel aussi, tu disais tout à l'heure que Bah, vous parliez sur les réseaux sociaux beaucoup, enfin bref, pour la vulgarisation, mais est-ce que tu disais par exemple travailler avec des artistes, vous êtes déjà, est-ce que vous avez déjà fait en tout cas des projets où vous avez en tête des projets où par exemple ça pourrait être une autre façon de communiquer, de faire un espèce de petit jeu vidéo, pas un jeu vidéo, mais une espèce d'expérience que j'ai déjà vue par exemple pour les risques en montagne. J'ai mon coloc qui travaillait là-dessus, c'était de la sensibilisation aux risques en montagne, et en fait, lui fait de l'informatique, et du coup, il avait fait un petit jeu pour désensibiliser. Et du coup, vous avez plein de domaines différents. Est-ce que vous avez déjà pensé à d'autres supports comme ça, un peu plus, je sais pas, même des expositions, aller jusque-là, en fait, en ayant les atouts de chacun, au final, aussi
Carrément. Carrément, à 1000%, on a justement un petit projet là-dessus, c'est de faire une grande exposition dans les écoles. Donc, mais oui, mais c'est incroyable. Mais oui, parce qu'on s'est rendu compte que vraiment l'art et la culture, ils ont un rôle juste incroyable dans la transition, parce que c'est à partir eux, enfin ce grand secteur-là arrive à jouer avec les émotions des gens. Et à partir des émotions, tu peux donner envie de faire la transition, de la rendre attractive, sexy, quoi. Et donc, on a beau créer des produits éco-conçus, tout ce qu'on veut, si derrière, on ne donne pas envie d'acheter différemment et de vendre ces produits-là, ça ne marche pas. Donc, bon, c'est un exemple sur les produits, mais au-delà de ça, on s'est dit, voilà, il faut vraiment qu'on travaille sur l'art et la culture, enfin, en tout cas avec ce secteur. Et donc, on aimerait bien, oui, faire des expositions transition écologique dans nos écoles, dans les halls d'école. Donc, on a plein de noms d'artistes et puis aussi pas mal de groupements à Grenoble, comme MixArt, donc on va essayer aussi de les contacter. C'est dans nos projets.
Oui, bah, MixArt, du coup, c'est une asso grenobloise qui travaille beaucoup autour des thématiques de l'écologie, qui a notamment le festival Bien le Bourgeon, qui a malheureusement pas pu avoir lieu cette année, mais qui aura sûrement lieu l'année prochaine. Donc ça peut être intéressant.
Ah. Oui, carrément.
Mais je rebondis sur ce que tu disais de toucher les émotions et du coup de donner... plus envie. J'ai une phrase dans le communiqué que vous m'avez envoyé qui m'avait marqué. C'était que votre but aussi, c'était de faire en sorte que la transition, elle soit pas subie, mais elle soit choisie. Et ça, je trouve que ça résume pas mal ce que vous me dites depuis tout à l'heure. En fait, c'est vraiment genre d'attraper entre guillemets les gens avec une vulgarisation et une façon de communiquer qui leur parle, et ensuite d'essayer de les... Voilà, pour arriver à ce que ces personnes passent de... Pas passif, hein, je ne saurais pas quel mot utiliser, mais à acteur, en fait.
Mais c'est exactement ça, projet. En fait. Je pense qu'on est beaucoup dans notre génération à se sentir un peu impuissant ou victime presque de ce qui se passe sans avoir vraiment d'accroche pour agir dessus ou pour faire quoi que ce soit. Et on essaye vraiment, nous, de trouver un peu des moyens d'agir, des choses à faire concrètement dans les milieux professionnels, scolaires et tout, pour vraiment, en fait, redonner un peu le pouvoir à chacun de prendre les choses en main, même si c'est à pas hyper grande échelle, mais dans son école, dans son entreprise, dans son cercle d'amis, dans ce qui l'entoure, pour vraiment agir aussi.
Et c'est quelque chose, c'est que souvent... dans la tête des gens, transition rime avec privation, dans le sens où on va faire moins de choses, on va pouvoir moins voyager, moins manger ce qu'on veut. Alors qu'en fait, c'est juste repenser la façon de faire les choses. On peut faire des choses incroyables, on voyage en France, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la France, quand même, un super, super paysage, super diversité de panorama. Et par exemple, d'aller à l'autre bout du monde, ou alors manger de la viande tous les jours, c'est aussi quelque chose qui a aussi un luxe, et alors qu'on peut faire d'énormes, de super repas avec des recettes végétariennes ou des choses comme ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ça.
Mais c'est aussi, je pense, il y a une certaine peur de l'inconnu. Je n'irai pas jusque-là, mais genre, par exemple, moi, j'ai l'exemple de ma mère où des fois, j'en discute avec elle, où moi, j'ai décidé justement d'arrêter de manger de la viande dans mon régime à moi parce que de toute manière, ça me coûte trop cher. J'arrive pas à l'acheter, donc il faudrait que j'achète de la viande qui n'est pas très bonne, donc ça m'intéresse pas trop. Mais du coup, pendant le premier confinement, c'était ma mère qui venait... En fait, j'étais bloquée dans la campagne et je pouvais pas bouger, j'ai pas de moyens de locomotion. Du coup, c'était elle qui venait faire mes courses et tout. Et à un moment, je dis « Ouais, maman, ça te dit, on essaye que les prochaines courses, tu m'achètes pas de viande ni rien. » Et puis là, j'ai vu mais son regard... Ouais. Et d'un coup, elle était perdue, en fait. Elle m'a dit « Ah non, mais en fait, je peux pas faire ça. Moi, je sais pas. » Enfin, je sais plus quoi t'acheter. Après, ça remet trop en question plein de trucs.
Ouais, c'est très culturel. La
plein d'habitudes. Mmh. Et je sais pas, je connais pas de recettes végétariennes. Mmh. Donc vraiment, je saurais pas quoi acheter et tout. Et ça l'a paniqué. Et du coup, je me suis dit, bon, non, laisse tomber. Enfin, je vais pas te donner une charge mentale aussi grosse. Enfin, laisse tomber, tu vois. Mais je trouve qu'il y a aussi ce truc-là de... Du coup, c'est pas une peur de l'inconnu, mais finalement, c'est aussi des connaissances des fois que tu n'as pas, en fait une question d'habitude que tu n'as pas, et c'est très dur de prendre une habitude et de lâcher une habitude, je crois.
C'est ça, c'est un biais qu'on a identifié justement dans la conférence sur les bouclages de transition écologique, c'est qu'on fait toujours la même chose finalement, enfin, pour économiser un peu notre énergie de réflexion, on va toujours prendre le même chemin pour aller au travail par exemple et jamais essayer de faire autre chose. Bah, des fois c'est bien aussi de tenter de nouvelles choses, et ça on le tente moins, on fait toujours les mêmes courses, on fait toujours les mêmes produits, et donc pour les gens qui mangent, qui voient pas un repas sans viande, eh ben c'est compliqué de se dire « Ah, mais on peut faire quelque chose. Quoi, ça existe, la lentille corail, tiens ?» On se... mais...
Et vous avez... Pardon.
Non, mais justement, en fait, on est parti aussi de ce constat-là, dans notre conférence. C'est-à-dire qu'on a montré tous les biais, et à la fin, on a montré des pistes de réflexion et des pistes de solutions. Et justement, on est parti du constat que ça effraie pas mal de gens, parce qu'ils ne savent pas comment vivre différemment, quoi, grosso modo.
Oui, c'est
ça. On a l'impression que c'est impossible de faire une transition, que la transition, ça bouleverse tout un tas d'habitudes, et que ce soit insurmontable, alors que pas du tout.
Personnellement, moi, j'ai la flemme. Enfin, non, mais il y a beaucoup ce mot-là qui est présent chez moi. Ça me paraît une montagne, quoi.
Et ben exactement. Vraiment. Et donc, du coup, à la fin de notre conférence, on a fait une dizaine de slides en montrant que c'est possible. Donc, avoir de manger différemment et moins de viande, c'est possible. On a listé tous les aliments qui remplaceraient la viande. D'avoir eu des écoles, des formations qui incluent plus la nature et l'aspect environnemental dans les maquettes pédagogiques, c'est possible. Regardez, il y a des pays qui le font. Ou regardez, il y a des zones en France qui le font. Avoir des repas 100% bio et local... à tous les repas, ça c'est complètement possible. Il y a des dans Moselle, il y a des écoles qui le font. Et donc on liste et on monte les projets. Okay. Et en fait, on a fait un grand listing comme ça en expliquant que regardez, c'est pas grand-chose en fait. C'est possible. Et là, on vient de réduire notre empreinte énormément et on a fait notre part presque, en tout cas une bonne partie de notre part dans la transition.
Mm-hmm. Mais il y a aussi, est-ce que des fois vous prenez par exemple une critique, mais l'écologie c'est pas associable. À un revenu faible, ou c'est un combat de riches, ça vous répondez comment à ça, parce que c'est quand même ça ressort vachement, et comment on le contre, parce que je sais qu'il y a un côté hyper interdépendant, enfin j'ai l'impression qu'il y a un côté interdépendant dans la problématique de l'environnement et de la transition écologique, et qu'il y a un peu tout qui est lié. Mais comment vous faites pour vulgariser ça et vous sentir légitime de dire que non, c'est pas forcément un problème de riche, je sais pas trop où je me lance avec cette question,
c'est vrai que c'est une question qui est très large, et je pense que, enfin, nous personnellement, on n'a pas été confrontés encore à ce genre de questions, enfin. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà demandé ça à une conférence.
Non, c'est vrai.
Mais c'est une question qui est très importante, et je pense qu'il est très légitime de se la poser. Parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on entend pour changer son comportement et se comporter de manière plus écologique, c'est vrai que c'est souvent des solutions qui coûtent plus cher ou qui sont un petit peu réservées à des gens qui ont le temps d'y réfléchir, les moyens et l'espace mental, et l'espace mental disponible pour ça. Sauf que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et... En vrai, je pense que nous, ce qu'on essaie de montrer, c'est que c'est pas que c'est facile, mais c'est que c'est juste une question de prise de conscience, et qu'en fait, il y a des choses, des alternatives qui existent, qui sont pas forcément plus chères ou quoi, mais c'est juste qu'il faut y penser. Et c'est pour ça que le levier de l'éducation et de la pédagogie est très très important. Enfin, dans les rapports de la consommation responsable de l'OPSOCO de 2020, un des premiers freins que les gens soulèvent, qui les empêche de consommer mieux, c'est le manque d'informations et de temps. Du coup, nous, c'est ça qu'on essaye aussi d'apporter. C'est plus un peu des solutions clés en main, de l'éducation qui est facile à avoir et qui s'adresse à tout le monde, pour en fait, que ça ne devienne pas aussi impressionnant, que d'avoir un comportement plus responsable et tout, ce ne soit pas une montagne devant soi, mais que chacun trouve un peu sa voie à lui et ses manières de faire dans son quotidien pour s'adapter à un mode de vie qui est plus durable.
Non. J'ai envie de dire aussi que c'est aussi un problème de riche, mais... C'est bizarre de dire ça, parce que c'est aussi peut-être les riches qui polluent le plus, c'est les riches qui surconsomment, qui font des voyages à l'étranger. Et c'est aussi c'est les riches aussi qui montrent souvent une habitude de vie qui n'est pas du tout compatible avec la transition, par exemple. Donc, il ne faut pas non plus dire que c'est
Voilà. Moi, je dis pas,
c'est,
je questionne.
C'est plus compliqué que ça. Et en plus, c'est pas non plus jusqu'aux citoyens de gérer ça. C'est aussi aux États. Voilà, mais... on peut pas remettre toute la charge sur les citoyens parce que ça n'a aucun sens.
Moi, j'aimerais compléter en disant qu'il y a plein aussi dans plein de secteurs où justement faire de la transition écologique, réduire son empreinte carbone, c'est faire des économies. Acheter reconditionné, on fait des économies. Mmh. Faire réparer des objets qui sont cassés au lieu de racheter neuf, on fait des économies. Aller en fripe, on fait des économies. Mmh. Et en plus, ça devient hyper hype, entre guillemets, ça devient hyper dans l'air du temps maintenant de consommer ça. Donc nous aussi, on pousse là-dessus sur les imaginaires de consommer en fripe, de consommer reconditionné, etc. etc. Au lieu de tout racheter de manière neuve. Après, il y a quand même des grands secteurs comme l'alimentation où on a des trucs qui sont complètement aberrants. Enfin, je veux dire, la fraise ou la cerise ou la tomate, n'importe quoi, qui viendrait d'Espagne, qui est élevée sous serre avec des pesticides, comment ça se fait qu'elle coûte moins cher qu'une tomate, par exemple, française qui a poussé, je veux dire, dans nos jardins ou dans nos exploitations en France, sans pesticides, en bio, en permaculture. Enfin, je veux dire, on a un produit qui est destructeur de l'environnement et destructeur pour la santé d'un côté, qui coûte moins cher qu'un produit qui est bon pour l'environnement et bon pour la santé. Il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème sur la valeur qu'on met derrière nos objets. Donc oui, effectivement, il y a des grands secteurs, notamment dans l'alimentation, où il y a pas mal de choses à faire pour changer l'économie derrière, changer le prix qu'on met sur les objets. Mais après, il y a d'autres secteurs où justement, réduire son empreinte, c'est aussi réduire ses coûts par mois, quoi.
Mmh. Mais après, voilà, du coup, ça vient avec l'exemple de ma mère tout à l'heure et du manque d'informations, mais peut-être parce qu'on n'a pas de solutions entre guillemets simples qui sont présentes. Enfin, par exemple, moi, je pense à la thématique du zéro déchet. Le zéro déchet aujourd'hui, bon, il y a de plus en plus, on va dire, d'alternatives, mais c'est quand même très peu et c'est une habitude que personne a. Et en fait, si
mais au-delà,
on n'est pas accompagné aussi par les grands secteurs en fait de l'alimentation là-dedans. Si je veux dire. Si on n'avait pas que des aliments emballés dans je sais pas combien de sachets et tout, et qu'on avait des alternatives pour nos aliments, enfin, si on nous proposait pas que du plastique, bah, ça serait beaucoup plus facile pour nous, en fait, d'acheter zéro déchet, parce qu'il y en aurait, enfin, ça serait pas construit, je sais pas le mot, mais dans du plastique, en fait. C'est vachement de pression, et comme tu disais, pour le citoyen lambda, de se dire « Oh là là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. » Et du coup, beaucoup de stress. À un moment, tu te dis « Non, mais là, là, c'est trop. » Et tu finis par te voiler la face. Alors qu'en fait, t'es pas responsable, toi. Il y a beaucoup trop d'enjeux et de... Enfin, toi, en fait, finalement, t'es tout petit.
Oh, mais il y a les deux. Ah, oh mon Dieu. Non, mais justement, il y a les deux parce qu'il y a un très beau rapport qui est sorti par Carbone 4 où le grand titre, c'est « Faire sa part ». Et en fait, on se rend compte que on se rend compte qu'en plus il est très vulgarisé, mais grosso modo la conclusion c'est que pour réduire son empreinte, pour être sous les 2 degrés, c'est des accords de Paris, et ben il y a un quart qui doit être fait par l'individuel, 3/4 par la société. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est la grande conclusion, c'est que si nous on fait pas notre un quart et que la société fait les 3/4, et ben on sera toujours pas bon, et du coup on sera au-dessus des 2 degrés avec tous les la dérive climatique qui va s'enchaîner derrière. Donc du coup on se rend bien compte qu'on a un rôle à jouer, c'est absolu, mais que tout seul on n'y arrivera pas non plus, faut pas se voiler la face. C'est on peut très se lancer un défi d'aller dans les grandes surfaces et de ressortir avec zéro plastique. Ça, c'est pas possible. Pareil pour, je sais pas, moi j'ai envie d'aller en vélo par exemple à mon boulot, mes bureaux sont en ville, j'ai envie d'aller, je sais pas, en vélo en ville. Si la ville n'est pas construite autour du vélo, s'il n'y a pas des pistes cyclables qui sont sécurisées, je ne prendrai pas mon vélo, je me mets en danger.
Mais, voilà, mais du coup, tout est interconnecté en
Exactement.
Fait.
Exactement, il faut les deux.
De base. C'est peut-être pour ça que vous avez décidé d'être interconnecté aussi pour. Comme tout est interconnecté, si vous êtes vous avez beaucoup de capacités
liens, entre les filières, tout ça.
Voilà, c'est ça. Du coup, ça vous permet quand même de vulgariser sur beaucoup d'aspects différents et du coup de faire comprendre que tout est lié et interconnecté et que du coup, toi, tu fais partie aussi de ce petite toile d'araignée, en fait. Tu es dedans et que tu peux agir, en fait. Voilà, enfin, moi, pour moi, c'est un peu comme ça que je vois votre collectif. Voilà,
exactement.
Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Alors on avait dit qu'on écoutait, attention, c'est toi qui avais choisi, comme tu veux.
Tu choisis ouais. Ok, Feu Chatterton, Un monde nouveau.
Et ben voilà, on écoute ça. Est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots sur la chanson ou pas?
Je l'ai plus trop en tête, mais si Feu Chatterton, ils viennent de sortir un album où il y a pas mal de textes qui parlent un peu de l'époque qu'on vit en ce moment et de l'époque incertaine où il y a beaucoup de transitions et donc on a besoin d'aller vers un nouveau monde.
Et ben c'est trop bien, c'est dans le sujet. On écoute ça sur Campus Grenoble 90.8 dès que Jimitri l'aura trouvé.
Un grand renouveau souffla sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Qui nous foutait la frousse, les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez, dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner, l'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel, des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Merci David pour ce retour.
Des plus professionnels.
Donc on est de retour sur Radio Campus Grenoble 90.8 dans l'apérophonie. Il est plus 18h. Il est 18h et des poussières. Et je suis toujours avec le collectif Think What Matters, avec trois membres du collectif. Donc on a bien parlé de votre vision des choses autour de la transition écologique, de pourquoi vous aviez décidé de monter un collectif qui était pluriel par rapport à cette interconnectivité de la question de la transition écologique qui mêle beaucoup, beaucoup de secteurs. Donc finalement, genre, être beaucoup de secteurs différents, ça va être forcément enrichissant et nourrir vos vulgarisations que vous faites à travers vos conférences et tout. Donc voilà, on a pas mal parlé de ça. Moi, je voulais parler un peu plus en détail des projets que vous menez. On a pas mal parlé des conférences, mais sur quoi, par exemple, vous travaillez en ce moment, et en parler un peu plus en détail, par exemple, pour voir plus votre façon de fonctionner, de travailler ensemble, parce que quand même finalement ce côté collectif pluriel avec des personnes qui sont dans des villes différentes, plus qui viennent d'univers différents, ça doit pas forcément être facile tout le temps aussi de se mettre d'accord et de travailler. Il y a quand même, c'est un boulot monstrueux et ça doit vous prendre quand même pas mal de temps. Voilà, mais enfin bref, parler de plus de peut-être cet intérieur là à vous, comment dans l'assaut.
Et ben on a été hyper surpris parce qu'on est quand même un collectif qui est tout jeune et en fait en si peu de temps, en même pas un an, on a fait énormément, enfin en tout cas au-delà de nos espérances, on a fait tout un tas de trucs, donc on est vraiment super content, mais on est en même temps très très modeste, hein. On n'a pas révolutionné la planète, mais on a quand même pas mal agi sur le bassin grenoblois, on est très content. Un truc qui nous a marqué, c'est que donc on a commencé à faire des conférences et puis les professionnels, les centres de recherche, les enseignants du bassin grenoblois se sont rendus compte un petit peu de l'aspect très scientifique et très très sérieux en fait de nos conférences. On fait pas des conférences.
Je t'arrête. Quand tu dis aspect scientifique des conférences, t'entends quoi par l'aspect scientifique?
Bah c'est ce fait-là, c'est la grande idée que tout est sourcé, tout est chiffré, tout vient de grands rapports. On aborde tous les thèmes, hein, pas simplement l'aspect ingénieur par exemple, hein, mais vraiment tout un tas de domaines, mais à chaque fois avec des chiffres qui sont très, très vérifiés, on double source à chaque fois nos informations pour être sûr de raconter pas n'importe quoi et que les gens aient confiance aussi. Donc à chaque fois on met les sources pour pousser les gens à se renseigner, mais voilà, on écrit aussi pas mal de manière très très sérieuse et consciente. Mais du coup, il y a des centres de recherche qui nous ont déjà fait confiance sur Grenoble pour qu'on fasse des conférences avec eux. Donc on est allé au Midi Minatech pour parler un petit peu des innovation responsable, qu'est-ce qu'on entendait derrière tout ça? Donc c'est incroyable, des étudiants qui viennent parler d'innovation responsable à des chercheurs, donc nous on était honorés, donc on a fait notre conférence et ça s'est super bien passé. Puis on travaille actuellement avec l'IRT NanoElec, donc c'est un grand institut de recherche technologique sur la microélectronique, donc très grenoblois, et donc avec eux on a fait une conférence, même une capsule de cours sur quels sont les enjeux autour de l'électronique, toutes les pollutions, toute l'empreinte de l'électronique, et puis qu'est-ce qu'une nouvelle électronique, une électronique plus durable. Donc là-dessus, on a travaillé, on a fait le tournage là, il y a quelques jours, donc on est aussi très très content.
Quand tu dis tournage, du coup, c'est de la conférence.
C'est ça, c'est la vraie capsule vidéo, comme un MOOC en fait, un format MOOC, donc sur un fond vert et tout ça, c'était assez impressionnant. Donc on était aussi très 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 content de ça. Et puis il y a des écoles qui nous ont fait confiance, hein, l'ENC Cube, une école d'ingé, où on est venu faire une conférence avec eux sur un grand contexte sociétal, la dérive climatique, la société linéaire, circulaire, donc ça a beaucoup plu aux enseignants. Et puis aussi un IUT, l'IUT 2 à Grenoble, Business Innovation. Donc là, on a pu proposer notre fameuse méthode de Q2F qu'on développe. Donc voilà, on pourra aborder plus tard un petit peu la méthode. Et puis on a participé notamment, puis j'arrête là, à la COP 2. Donc cet événement qui est national, on était trop contents, sur le grand thème de demain quel job. Donc on a parlé de toutes les problématiques du job actuel, les problématiques de l'automatisation, des salaires qui ne représentent pas vraiment l'utilité de l'emploi. Et puis on a parlé du coup des emplois verts, des emplois verdissants, avec des professionnels d'Engie, avec des professionnels sociologues. Enfin, ça a été vraiment une belle table ronde.
Donc à la base, vous êtes quand même un collectif d'étudiants et d'étudiantes qui s'adresse beaucoup à des étudiants et des étudiantes. Exactement. Mais finalement, vous êtes né en 2019, donc ça fait vraiment
2020.
C'était marqué 2019 sur le.
C'est communiqué. Vrai.
Ah la bonne.
Et encore, on n'est pas officiellement né encore. On est en train de monter officiellement l'assaut, donc
c'est incroyable quand même parce que vous êtes, enfin, du coup, sur Grenoble, vous êtes en relation avec énormément de personnes en fait maintenant, donc.
Non, c'est vraiment top.
On a eu des invités assez prestigieux, Philippe Biwix. Ouais.
Exactement.
Qui c'est
pour Philippe Biwix, l'ambassadeur des low-tech. Ouais.
L'âge de low-tech, un livre.
Ouais.
Bah, pas forcément créateur, mais en tout cas ambassadeur des low-tech en France. Et donc, il a participé à une de nos tables rondes qu'on a voulu organiser parce qu'on veut stimuler le débat aussi. Donc il y avait Philippe Biwix, il y avait Agnès Crépé de Fairphone. On a réussi à faire venir Fairphone avec nous.
Qu'est-ce que c'est Fairphone?
Alors, Fairphone,
ce sont des téléphones qui sont durables, qui peuvent être réparés et où il y a des pièces de rechange. Et donc, c'est pas comme les iPhones où la... Pardon, j'ai cité une marque, je sais pas si j'ai le droit. Où la batterie tombe en rade et ah bah mince, on peut rien faire. Ou alors, ça coûte super cher de réparer. Là, c'est vraiment des téléphones où chacun peut réparer son téléphone.
Ok,
voilà.
La durabilité est poussée à son max.
Exactement.
En fait. Que ce soit hardware, les pièces sont toutes détachables et que ce soit aussi software. C'est-à-dire qu'on lutte contre l'obsolescence programmée à tous les niveaux, quoi. Donc, c'est un beau, beau produit. Donc, on a réussi à avoir... des membres de l'entreprise pour venir nous parler un petit peu des bonnes pratiques.
De toute façon, j'imagine que vous avez encore 12 000 sujets à aborder, puisque, en fait, comme on disait, c'est tellement interconnecté que tu peux...
Je pense qu'on n'a pas de limite, honnêtement.
Oui, je sais ça.
Ouais.
C'est ça, il y a beaucoup de...
Là, on travaille actuellement... Ah ouais, on travaille actuellement... Là, moi, je parle que des conférences, mais on ne fait pas du tout que ça dans le collectif.
Oui, voilà, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous faites d'autre?
Mais pour reprendre sur ta question, on travaille, par exemple, sur « Demain, quel job ?» À quoi va ressembler notre job, mais on veut en faire une vraie conférence au-delà de la COP, mais aussi demain, quelle économie? Il y a plein de choses qui sont autour de l'économie, l'économie locale, l'économie solidaire. Donc on veut faire une grosse conférence pour montrer un petit peu ce qui va pas.
C'est bien parce qu'en plus, généralement, on a tendance à opposer économie, écologie.
Ah, c'est central.
Ouais. Du coup, le fait d'avoir de la vulgarisation autour de l'économie, surtout que l'économie, c'est pas accessible à tout le monde facilement. Mmh. Enfin, personnellement, moi, j'y pite rien. Enfin, heureusement qu'il y a des gens où je regarde tout le temps des articles de vulgarisation, parce que vraiment... Enfin, moi, je vais me dire, ouais, non, ça, c'est... Enfin, oh là là.
Mais c'est vrai que sur ce genre de questions, c'est là où la pluridisciplinarité, elle rentre vraiment en jeu. Enfin, déjà là, sur la préparation de la COP2, on l'a vu, on a fait une petite réunion entre nous avant pour un peu savoir qu'est-ce qu'on voulait prendre comme orientation, qu'est-ce qu'on allait dire et tout. Parce qu'il n'y avait qu'une personne, David, qui pouvait être présent à la COP2. Et déjà, pendant cette réunion, on voyait qu'on avait tous une manière très, très différente d'aborder les problèmes et les choses, et que vraiment, chacun apportait une pierre à l'édifice, et qu'à la fin, ça nous permettait d'aller très, très loin. Donc, je pense que sur plein d'autres sujets comme ça, ça peut être très intéressant d'avoir ce genre de point de vue très varié, très divers, avec des ressources hyper différentes.
Bah, et c'est ça qui fait un peu... Ça nourrit le débat entre vous avant de...
Exactement.
Ok. Ça doit pas être facile quand même tout le temps. Ça prend de l'énergie, j'imagine, quand même.
Mais, oui, ça prend de l'énergie, mais,
c'est
mais pour le coup, on est tellement bienveillants entre nous que du coup, c'est toutes les interventions, quand on fait des réunions entre nous, toutes les interventions sont prises en compte. Quoi. C'est à chaque fois super intéressant. Et pour justement, demain, quel job pour préparer la COP, il y a plein de choses, par exemple, que moi, je n'avais pas pensé et que mes collègues, pour eux, c'était évident. Quoi. Donc du coup, on a fait une préparation, la conférence est presque finie d'être montée et c'est très complet, quoi. Très modestement, mais c'est au-delà de ce que j'aurais pu faire simplement moi en tant qu'ingé.
Le pouvoir du groupe. Hein.
Exactement, c'est vraiment.
Et puis des fois, genre, c'est aussi bien du coup de lâcher aussi. Peut-être t'as une idée hyper précise d'un truc et t'es persuadé que c'est l'idée et que c'est vraiment bien. Enfin, ça marche aussi en art, quoi. Tu te dis, ça c'est vraiment, ça va marcher du tonnerre et tout. Puis il y a quelqu'un qui arrive qui dit, ouais, non, alors moi je ferais peut-être plus un petit peu comme ça. Et toi, t'es là, genre, non, c'est vraiment comme ça que ça va marcher et tout. Puis si tu restes dans ton truc, au final, bon, tu vas faire un spectacle, peut-être si on parle de l'art, ça va être pas mal. Ouais. Mais en fait, si t'as écouté et que t'as appris à te dire, genre, ok, d'accord, je pose un peu genre mes idées préconçues à côté et puis j'accepte celles des autres. Et c'est là où, en fait, là, tu défonces le plafond avec un spectacle. Waouh!
Feu d'artifice et
tout. C'est ça, oui, tu l'as bien, je le mimais. T'as vu que c'était le feu d'artifice. Bon. La force du groupe est très, 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 très importante et du coup, elle est au cœur de votre façon d'agir. Mais je rebondis du coup sur ce que tu disais tout à l'heure, David. Tu disais, on ne fait pas que des conférences. Du coup, qu'est-ce que vous faites d'autre? On a commencé à aborder le sujet tout à l'heure avec une expo, par exemple. Et est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous faites d'autre? Est-ce que vous avez aussi une logique on est beaucoup dans la théorie. Est-ce que vous avez des trucs pratiques aussi ou pas du tout? Qu'est-ce que vous faites d'autre à part des conférences? Voilà.
Déjà, Nathan peut nous parler des articles.
Oui, on a tout à coup. En fait, on peut déjà dire que... En fait, Think What Matters est divisé en deux grands pôles, on va dire. Il y a un pôle technique qui s'occupe des conférences, de tout ce qui est un peu comme ça. Et un autre pôle, qui c'est le pôle communication, qui s'occupe des réseaux sociaux. Et en fait, on est beaucoup à créer des articles, à rédiger des articles de vulgarisation, de communication, à partager des nouvelles, à créer des visuels pour aller avec les articles. Et donc, c'est tout un pôle à part entière, et on s'occupe, on essaye de toutes les semaines de créer de nouvelles choses. Et donc, de façon assez, captivante, moi, j'ai un concept, un peu d'article qui aborde un sujet complexe, mais de façon un peu fun, que j'appelle les désordres de grandeur. Et par exemple, la dernière fois, j'ai écrit un article sur l'impact écologique du numérique, l'impact environnemental. Donc c'est un sujet très complexe, il peut paraître assez... pas très sexy au premier abord. Mais j'ai abordé avec une question. Est-ce que la pornographie pourrait-elle faire réchauffer l'atmosphère littéralement? Et là, c'est la question pour dire, si tout le monde se mettait à regarder la pornographie H24, en combien de temps on atteindrait les 1,5 degrés? Et si c'est, y a que ça, et du coup, on découvre vraiment les impacts comme ça, que oui, il y a un vrai impact avec l'utilisation du numérique. Bon, on utilise un sujet un peu putaclic, entre guillemets. Mais voilà, on peut faire des choses assez intéressantes comme ça. Et on découvre tout ce qu'il y a derrière. J'essaie d'expliquer un maximum qu'il y a une réalité physique derrière nos usages numériques, par exemple. Et que c'est pas aussi anodin que soi que ça de regarder une vidéo. Mais voilà, ce genre de choses.
Comme vous disiez tout à l'heure, genre, en fait, d'essayer de toucher en plein cœur en fait, les à travers les réseaux sociaux, de parler le langage des réseaux sociaux et puis de mettre du fun aussi dans vos problématiques. Donc là, c'est totalement ce que tu fais travers ces articles.
Il y a un boulot qui est incroyable parce que du coup, Oriane s'occupe des créations visuelles et là, il y a vraiment un travail qui est énorme qui est fait justement pour rendre tout ça attractif. Donc c'est juste génial.
Donc la com est une grande, grande, grande partie du collectif.
Quoi. Et c'est en train d'être vraiment développé parce que pour l'instant, j'étais un petit peu seule sur ce pôle et avec les études et tout, j'ai pas eu trop le temps de m'y investir, mais là il y a beaucoup de projets qui se montent. On essaye aussi de faire plus de vidéos et de rendre les choses un peu plus visuelles, parce que pour nous c'est quelque chose qui est très important en fait, d'arriver à captiver, de donner une identité vraiment à ce collectif qui interpelle et qui donne envie de regarder. Et là récemment, je suis allée à la marche pour le climat dimanche dernier à Paris, et il y avait une prise de parole de Cyril Dion qui m'a vraiment touchée. Et donc j'ai essayé de faire vite fait une petite vidéo là-dessus pour vraiment un peu faire partager son message, sa vision des choses et voir un peu aussi la réalité dans l'actualité, mais en même temps avec une vision un peu poétique des choses, de comment ça peut être. Donc en fait, on a plusieurs moyens de présenter nos idées. On a autant ce côté plus académique avec les conférences, un côté un peu plus déconne et léger avec les articles comme Nathan racontait, et un côté peut-être un peu plus tournée artistique comme on voudrait faire avec les expositions, ce genre de choses, mais aussi avec la vidéo. On essaie vraiment de s'adapter à plein de formats pour que chacun puisse vraiment trouver son compte et que nos messages passent au mieux.
Et puis là, nouveau format, du coup, format radiophonique.
On va peut-être y penser. Hein. J'ai toujours rêvé de faire du podcast.
Les podcasts, si vous voulez toucher du monde, en ce moment, ce qu'on disait pendant la pause musicale, c'est quand même très utilisé et beaucoup, beaucoup, justement, dans la vulgarisation.
Ouais.
Exactement. Ouais. Et du coup, on fait aussi d'autres trucs. C'est pas fini.
Moi,
c'est...
d'autres trucs, c'est pas la liste. Jamais. Mais vous êtes combien?
On est tellement motivés que du coup, on a plein, plein de projets qui mûrissent à chaque fois dans nos têtes, et toutes les semaines on a des nouveaux projets quoi. Donc ça va très très vite, mais du coup on a un pôle, donc c'est très entreprise, c'est monté très entreprise, on veut être très efficace, mais du coup dans le pôle technique on a un pôle entretien interview. En fait on s'est rendu compte qu'on peut lire des rapports, mais on n'arrivera pas à se rendre compte vraiment d'une réalité tant qu'on n'ira pas sur le terrain ou tant qu'on n'ira pas interviewer des gens qui sont vraiment acteurs à leur échelle. Donc du coup on s'est dit on monte un pôle là-dessus, et c'est un pôle qui est aussi très enrichissant parce qu'on du coup on découvre les nouvelles pratiques. Et là à partir de septembre on veut organiser aussi des visites, c'est un petit projet qui est en train de mûrir dans nos têtes, des visites de centres de tri, des visites de centres de recyclage, de Fab Lab, etc. Déjà dans le coin.
Des visites accessibles au public. Enfin, vous emmenez des personnes avec vous, ou alors c'est des visites que vous ferez vous et qu'ensuite vous allez retranscrire sur les réseaux sociaux en vidéo.
L'objectif, c'est d'inclure. Mais il y a aussi une pandémie, je ne sais pas si vous avez l'info à Radio Campus.
Non, nous on est sur notre petit îlot. Ouais.
Non, mais c'est un enfer, mais du coup, voilà, on est ambitieux, mais aussi raisonnable, on va dire.
C'est clair.
Donc à partir de septembre, je ne sais pas à la jauge en fait comment ça va se passer, mais si on peut inviter du monde, ce sera vraiment avec plaisir.
Avec vous, ouais.
Donc voilà, du coup, on fait des entretiens, des interviews de scientifiques, d'industriels, d'acteurs, d'artistes, de designers, pour découvrir les bonnes pratiques liées à la transition écologique. Et puis, dernier pôle qu'on fait, c'est la méthode de Q2F, la fameuse méthode. Parce que nous, on est un collectif qui ne voulait pas que montrer du doigt ce qui ne va pas. On est un collectif qui montre du doigt ce qui ne va pas, forcément. Mais on est aussi un collectif qui veut proposer des pistes de réflexion, comme on l'a dit tout à l'heure.
Attends, de Q2F, c'est-à-dire quoi, ça, David?
Eh bien, regardez-moi ça.
Tu veux prendre ma place?
Et bien, du coup, on a monté cette méthode-là d'innovation responsable, méthode 2Q2F.
Ah, c'est vous qui l'avez montée?
C'est nous qui l'avons montée.
Ah.
Donc, très modestement.
Ah, très modestement.
Très modestement, toujours.
Toujours modestement.
Exactement. Mais parce que du coup, on le propose au monde scientifique. Hein. On ne veut pas l'imposer, hein, bien évidemment, mais on veut le co-construire avec le monde scientifique.
Modestement.
Voilà, exactement. Et donc, 2Q2F, pour répondre à ta question, Nathan, ça veut dire quoi, qui, fabrication, fin de vie. C'est quatre grandes questions.
Tu peux le répéter plus lentement, s'il te plaît.
Quoi, qui, fabrication et fin de vie.
Très bien.
De Q2F, justement, c'est les quatre grandes thématiques, quatre grandes questions à se poser avant de faire un produit pour être sûr qu'il soit soutenable, responsable et qu'il soit en lien avec la transition écologique. Donc là, on est super content parce qu'on a proposé cette méthode à une école déjà, au Business Innovation, à l'IUT2, donc qui ont complètement validé le projet et ils nous suivent à fond là-dessus.
Et du coup, ils font quoi par rapport à cette méthode ?
Et ils ont fait travailler leurs étudiants là-dessus. Donc l'appliquer carrément sur des produits. Donc nous, on attend maintenant qu'ils nous fassent leur retour là-dessus. Donc on est trop contents, on a donné des devoirs. On ne pensait pas du tout. Donc on était aussi très surpris de la réaction de la prof, donc c'était super. Et puis on l'a proposé à un bio-ingénieur, à un bio-designer, qui ont du coup appliqué la méthode. On l'a appliqué avec eux sur un produit qu'ils avaient monté et ils nous ont fait déjà leur retour. Donc c'est super, on a co-construit. Donc elle est en plein agrandissement, en plein développement. Et donc, du coup, on va la proposer encore à des centres de recherche là, dans pas très longtemps.
Donc, élargir toujours le groupe, finalement, genre les horizons avec de nouvelles personnes à qui proposer des projets, de nouvelles personnes à aller voir pour leur proposer une méthode, une nouvelle façon de voir ce que vous faites avec les écoles, de toucher l'enseignement pour peut-être essayer d'enseigner avec une vision plus durable, je sais pas, mais plus transitionnel. Ouais. Voilà, donc toujours s'agrandir.
Exactement.
Toujours, c'est...
Parce qu'on
mais
pense...
c'est bien, parce que c'est petite personne là, petite personne là, petite personne là, petite personne là, qui fait grosse personne.
Les petits ruisseaux dans la grande rivière.
Exactement. Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu plus stylé que...
que les grosses personnes.
Bref, mais bon voilà, et du coup on arrive pratiquement à la fin de l'émission, je vois l'horloge là, oui ça passe vite, fais pas si c'est là David, mais du coup je rebondis sur le fait que vous agrandissez toujours, mais alors qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que vous faites,
on recrute, oui non on aimerait bien s'agrandir, enfin parce qu'on a déjà, on est un bon groupe. Mais on a besoin de beaucoup de gens parce que oui, c'est quelque chose, on pense que ça peut fonctionner partout. On a besoin de gens dans toutes les filières, des gens un peu partout en France. On aimerait bien vraiment que ce soit des réflexions, des manières de penser qui s'exportent. Et donc, on est vraiment ouvert à des gens de toutes les filières, des gens qui ont des skills dans n'importe quoi. On prend tout, enfin, même si ce n'est pas forcément des compétences de l'université, des filières de l'université. Enfin, tout est intéressant, tout est bon à prendre. Et je pense que chacun peut apporter vraiment quelque chose au groupe, au collectif et à chacun d'entre nous. Donc oui.
Exactement, parce qu'on a plein d'events, on ne veut pas s'agrandir pour s'agrandir, c'est parce qu'on a besoin d'avoir plein de monde avec nous pour travailler. Nous, on veut vraiment inclure du monde et être acteur, donc, montrer que c'est hyper valorisant de travailler dans la transition écologique et donc c'est être acteur. Donc on peut être acteur avec Think What Matters. Et donc là, dans les prochains projets qu'on a, c'est développer nos prochaines conférences. Donc pour ceux qui aiment animer comme ça des conférences dans des écoles, donc demain quel job, demain quelle économie, on en a parlé. Proposer des interventions dans des collèges, des lycées, faire de la sensibilisation dès le plus jeune âge, on pense que c'est super important avant d'arriver en études supérieures. Interviewer des acteurs de la transition encore, donc parler de l'hydrogène, parler du design, nouveau design, parler pourquoi pas de politique aussi, donc avec des gens vraiment, on veut des gens du terrain, on veut peut-être faire un petit peu de journalisme en fait à notre niveau, donc rencontrer les acteurs locaux, ce serait super. Se rapprocher des associations art culture, on l'a dit, organiser à partir de septembre des apéros transition à Eve. Ça pourrait quand même être une super bonne occasion de se réunir, de se retrouver, de discuter un peu de transition et puis de boire des bières locales. Pourquoi pas? Donc voilà, bref, on a plein d'idées suivant les possibilités, mais voilà, tout le monde est le bienvenu.
Ok, donc vous associez potentiellement à d'autres associations aussi.
Exactement.
Oui. Voilà.
Oui. Collaboration à mort.
Bah, si c'est ce qui s'est fait avec Game Over. Au final, c'est un grand événement qui a regroupé plusieurs associations et ça marche très très bien ce genre de choses.
Et nous, la semaine dernière, dans les locaux, on accueillait CIE, Conscience à Impact Écologique de Grenoble. Donc qui est vachement dans l'idée qui va en fait interagir avec des publics, c'est pas des conférences, c'est plus sous forme d'ateliers, débats, etc. avec une vision pédagogique travaillée, beaucoup travaillée. Donc l'idée c'est pas de faire de la sensibilisation, c'est plus d'essayer de conscientiser. C'est pas le mot sensibilisation qui est utilisé, enfin voilà. Donc ça c'est aussi une asso présente qui... T'es vachement là-dedans, donc moi je dis ça, je dis rien, enfin voilà. Je propose qu'on se quitte là-dessus, si ça vous va, si peut-être de nous dire un peu où on peut vous joindre, comment vous contacter puisque vous recrutez. On le mettra de toute manière dans le descriptif du podcast, mais là, tout de suite, vous pouvez nous dire où vous joindre.
Une belle page Facebook qui s'appelle Think What Matters, donc... Think What Matters, c'est de l'anglais. Vous pouvez trouver, je suis sûr, comment c'est écrit. Mais on sera heureux de vous répondre si vous nous envoyez des messages, bien sûr.
Exactement, on a une page aussi YouTube, où on vient regrouper un petit peu toutes les conférences qu'on a pu
YouTube.
Faire.
Une chaîne YouTube. Oui, une chaîne
j'ai dit
YouTube.
Quoi
une page YouTube.
Ah, la barbe. Ouais, une chaîne YouTube pour voir un petit peu nos travaux. On a aussi une page LinkedIn, du coup, pour aussi sensibiliser
un
de ce côté-là.
Un peu plus corporate.
Exactement. Et puis, on a une adresse mail quand même, donc au cas où, c'est thinkwhatmatters.greux@gmail.com. Donc voilà, plein de moyens de nous contacter ou par Facebook ou par l'adresse mail. Je pense que c'est le plus simple.
Et, bah, trop cool.
Et bientôt par Instagram.
Et bientôt par Instagram, c'est trop bien.
Ça roule. Et ben, on se quitte là-dessus. Est-ce qu'on a le temps, Dimitri, de mettre une dernière musique ou pas? Yes. Et ben, on balance une musique pour finir. Du coup, c'était
c'est moi
la
qui
deuxième.
Présente encore.
Ouais, c'était la deuxième.
Et du coup, c'est Nouveau Monde de Ron, qui est un DJ français qui fait des super musiques. Et dans celle-ci, il y a des petits extraits de discours sur l'écologie.
Ok, bonne trop écoute. Cool. Et ben, merci à vous d'être venus dans cette émission. Ça a fait plaisir de vous accueillir. Et
merci à Radio
merci
Campus.
Beaucoup,
et puis, bonne continuation. On se quitte en musique. Du coup, vous écoutiez l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8. Et à bientôt.
Intéressant, mais qui soit pas un monde de retour à la bougie.
Redéfinir un nouvel imaginaire, c'est-à-dire écrire une nouvelle mythologie et travailler les symboles, c'est le plus important. Parce que beaucoup de nos actions sont mises en œuvre non pas pour ce qu'elles sont, mais pour acheter le regard de l'autre.
Si tu passes pas par des percepts, par des affects, c'est-à-dire des modes de perception, si tes modes de perception et d'attention au monde n'ont pas été modifiés, et souvent ils sont modifiés par là, alors ton comportement ne va pas changer. C'est pas le fait de savoir ou d'être informé qui te fait changer, c'est le fait que tout d'un coup, ta perception tourner.
Ouais, mais c'était quoi? L'apérophonie! C'est quoi? L'apérophonie.
Quoi?
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.